est heureux, bien sûr, de se retrouver pour cette première réunion de prière en présentiel. Mais nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous regardent et nous écoutent sur Zoom. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement dans vos maisons. Voilà, l'Esprit de Dieu n'est pas limité, mais il va dans les maisons. Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans Éphésiens 6. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de l'équipement spirituel. Éphésiens 6, voilà, nous lirons juste deux versets à partir du verset 16 et 17. Éphésiens 6, 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. » Le combat spirituel ou combat de la foi, pourquoi combat spirituel? On pourrait se dire, mais on prie simplement... Pourquoi combat spirituel ou combat de la foi? Parce que nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit. Nous avons une vision par la foi. Donc notre vie est empreinte de piété. Voilà, en étant chrétien, disciple, né de nouveau, notre vie doit être empreinte de piété, crainte de Dieu, voilà, dans nos cœurs. Et bien sûr, nos ennemis ne sont pas visibles, charnels, ils sont spirituels. Dans les lieux célestes, nous dit Paul, nous l'avons médité, et bien sûr, notre combat découle de notre vie. Si notre vie est spirituelle, notre combat sera spirituel. À l'inverse, si nous marchons par la chair, comme dit Paul aux Galates, si nous marchons par la chair, eh bien, nos pensées seront charnelles, nos paroles charnelles, seront remplies de nous-mêmes, au lieu d'être remplies de Christ, de l'Esprit, et bien sûr, nos ennemis sont ceux qui sont visibles. Alors, ce n'est pas ce combat-là que nous voulons, hein. Celui-là, il est destructeur. Nous, nous voulons entrer dans ce combat spirituel, combat de la foi, qui, celui-là, produit, nous fait gagner du terrain. Voilà, c'est ce combat-là que nous voulons mener. Il est encourageant, plusieurs au milieu de nous, certains m'ont dit, j'avais pas trop fait attention à toutes ces armes, elles sont tellement puissantes. Ce combat qui était un combat mené par l'Esprit, c'est vrai que ça nous ouvre, en méditant la parole de Dieu, ça nous ouvre l'esprit, ça nous ouvre le cœur, et nous pouvons voir ces choses, et c'est encourageant, mais plus d'avoir les yeux ouverts sur des réalités bibliques, spirituelles, il nous faut mettre en pratique, entrer dans ce combat, et n'oublions pas que ce combat, eh bien, c'est Dieu qui exerce nos mains au combat. Nous commençons, nous luttons, et comme tout, il y a un apprentissage, il y a une régularité, il y a le secours de Dieu, et nous découvrons des choses en nous, à nous débarrasser. Et Dieu exerce nos mains au combat. On n'est pas qualifié pour ce combat. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous conduit dans ces choses, parce que ces puissances-là, elles sont au-dessus de nos capacités, de nos forces, hein. Nous, on ne peut pas faire le poids contre les esprits méchants dans les lieux célestes en un instant. Mais c'est Dieu en nous. C'est cela notre force, la force. Alors, il faut entrer et poursuivre dans ce combat. Alors, pourquoi devons-nous absolument entrer dans ce combat, mener ce combat? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, tout simplement en regardant autour de nous. Quand nous regardons autour de nous les ravages de l'ennemi, on se dit, mais il faut des ravages de l'ennemi. On voit des enfants repartis dans le monde, on voit des couples qui ne vont pas, des familles déchirées. Je parle dans le milieu chrétien, le milieu de l'Église. voit toutes ces choses au milieu, mais qui fait ces choses? Ce n'est pas Christ, c'est l'ennemi qui fait des ravages. On voit tant de choses, eh bien, on se dit non, il faut que je relève le défi. Je ne peux pas laisser l'ennemi piller comme cela. Non, il faut que je me redresse comme David, qui a vu la ville de Tsiklag et toutes les familles brûler, les familles emmenées en captivité. Il a dit non, s'appuyant sur l'Éternel, il releva le défi, l'armée est partie avec lui et ils ont tout récupéré. Alors nous avons des promesses, Dieu nous redonnera les années que la sauterelle a dévorées, etc. Ça, ce sont des promesses pour nous. Et nous voulons mener le combat. Nous voulons mener ce combat donc de la foi. Et ce soir, nous verrons une arme défensive, le casque du salut, je pensais aller aussi un petit peu sur l'épée de l'esprit, mais non, ce n'est pas possible. Donc nous allons nous arrêter juste sur le casque du salut. Casque du salut. Il y a un autre texte qui nous parle du casque du salut, et j'aimerais le lire aussi avec vous, parce qu'il y a des renseignements là, dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, je lirai à partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel passage aussi qui nous réconforte, donc le casque du salut. Et là, le casque du salut est mentionné dans le contexte du retour du Seigneur. Le contexte du retour du Seigneur. Et c'est le moment, le jour approche, et le combat va s'intensifier de plus en plus. Il ne faut pas croire qu'avec les années, maintenant, ça va s'adoucir. Pourquoi? Parce que le diable, lui, il y croit au retour du Seigneur. Le diable, lui, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Et la Bible nous dit même dans le livre de l'Apocalypse que le diable est animé de colère. Il est descendu sur la terre avec une colère. Parce qu'il sait, lui, il y croit. Nous, parfois, on n'y pense pas tant que ça, mais il faudrait que ça occupe beaucoup nos pensées, le retour du Seigneur. Et dans ce contexte-là, où le combat va s'intensifier, il est dit de prendre, de nous revêtir, entre autres, la cuirasse de la foi, bien sûr, nous l'avons vu, mais de la justice, nous avons vu, mais il est dit de prendre le casque du salut. Alors c'est important. Donc j'ai médité un petit peu sur le casque du salut. Je disais que le combat va s'intensifier de plus en plus, et le diable essaiera par tous les moyens de ravager encore l'Église, de s'introduire dans les pensées des hommes, des chrétiens, des chrétiennes. Il est animé d'une colère. Bientôt, Jésus va revenir chercher son Église. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur la terre. Mais pour l'instant, nous devons encore combattre. Mais pour l'instant, nous devons encore compter sur la grâce de Dieu. Il faut que ces choses, eh bien, soient claires pour nous, pour mener ce bon combat, avec les informations que nous avons dans la parole. Il y a une instruction, quand nous la méditons, longuement, il y a des choses qui doivent s'imprimer dans notre cœur, des choses indispensables, des choses, voilà, c'est tellement, tellement important. Donc nous sommes sur la terre et nous devons encore combattre. Alors quand le Seigneur Jésus reviendra, qu'il nous trouve les armes à la main, qu'il nous trouve en train de combattre, en train de le servir, en train d'être consacré, qu'il nous trouve sous l'étendard de la croix. Nous marchons sous l'étendard de la croix. L'armée du Seigneur est la plus forte. L'armée du Seigneur doit gagner du terrain. Les ténèbres doivent reculer. Et par qui? Par chacun d'entre nous, elles vont reculer. Nous sommes tous concernés, nous devons tous relever le défi. S'il y en a 5 qui combattent et 40 qui regardent, c'est pas bon. S'il y en a 40 qui combattent et 5 qui regardent, c'est mieux. Mais s'il y en a 45 qui combattent, c'est encore mieux. Nous sommes tous, non pas invités, mais nous sommes exhortés par le Seigneur à mener ce combat. Alors le casque porté à l'époque, alors c'est vrai que quand j'y pense, ça, c'est un peu paradoxal. On pense à la vie chrétienne et on pense toujours à la paix du Seigneur, au repos, à la joie, à l'espérance. Et on se dit, là, le Seigneur parle d'un guerrier. C'est un peu, non? Mais la vie chrétienne, il y a une panoplie de j'allais dire, d'arrêt sur image. Nous sommes en même temps dans la paix du Seigneur, mais nous sommes en même temps en train de combattre contre l'ennemi. Nous sommes dans le repos de Dieu et en même temps, nous travaillons. Nous le servons. Ça semble paradoxal, mais non, pas du tout. Nous allons au combat avec la présence de Dieu, les armes de Dieu. Nous sommes, et j'allais dire que nous allons au combat en chantant. On chante les cantiques. Et oui, parce que celui qui nous conduit, c'est le chef de notre foi, c'est Christ. Et nous savons que si nous le suivons, il nous mène à la victoire. Toujours. Donc le casque du salut porté à l'époque par les soldats romains, et Paul a pris cette image donc du soldat romain, était de la plus haute importance quand il mettait ce casque qui était fait de cuir épais, recouvert de plaques de métal, ou alors carrément en métal massif, épousant parfaitement la forme de la tête. Ces casques anciens de l'époque, ils avaient des extensions pour protéger aussi le visage. Ils mettaient bien sûr sur la tête quelque chose de souple avant de mettre le casque, afin qu'il n'ait pas une douleur en portant ce casque. Le but était de protéger la tête. Bien sûr, pourquoi ? Parce que l'ennemi voulait toucher d'abord la tête, qu'il soit à pied ou à cheval, qu'il ait une hache ou qu'il ait une épée à deux tranchants, eh bien, il voulait toucher la tête, parce que s'il touchait la tête, c'était fini. Et donc, il y avait une protection importante pour protéger la tête. D'un point de vue spirituel, le casque du salut, c'est ce que l'ennemi veut détruire. Il veut détruire notre assurance du salut, notre conviction, notre foi dans le salut, parce que vous savez que le salut, c'est le plus important. Plus important. On peut souffrir ici-bas. Certains ont été appelés à souffrir, des frères et sœurs qui ont réellement la foi. Dans certains pays, ils sont persécutés et ils ont une foi réelle. Mais pour eux, le plus important, plus que cette vie ici-bas, même plus que leur propre vie, c'est le salut de leur âme. Voyez, il faut que ce salut soit tellement important pour nous. D'ailleurs, Jésus dira aux disciples qui reviennent, tout enthousiastes, il dit, mais Seigneur, les démons même nous sont soumis. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous. Au contraire de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est le plus important, plus que notre vie ici-bas, plus que les biens que nous avons, plus que notre famille encore. C'est le salut de notre âme. Et c'est cela qui est important, le salut de notre âme. protéger notre tête, protéger des pensées mauvaises, du doute qui peut s'infiltrer. Et vous savez, quand le doute s'infiltre au niveau de notre esprit, de nos pensées, quand le doute vient, eh bien nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables. Ne pouvons pas, nous sommes comme désarmés quand le doute vient dans notre esprit, nous sommes faibles, nous sommes comme désarmés. Et le diable vise ces choses. Et notre Seigneur nous dit de prendre le casque du salut, afin que l'ennemi ne puisse pas toucher la tête, toucher nos pensées. Vous savez, une pensée négative, ça nous met à plat. Une pensée négative, ça peut nous conduire à une dépression. Une pensée négative, et on pense plus qu'à ça. Il y a un objet qui est là, et l'ennemi peut infiltrer quelque chose et qui nous fait voir que la chose, qui nous fait, etc. Et nous ne pouvons plus avoir une vision élargie. Les pensées, c'est un champ de bataille. Dans 1 Roi 19, on ne va pas lire tous les textes, ça nous mènerait un peu trop loin, mais dans 1 Roi 19, si vous notez versets 9 et 10, Élie est parti, c'est l'épisode où, juste avant, au chapitre 19, verset 1er, il fuit devant une menace de Jézabel, il se couche sous un genêt, il demande de la mort, et l'ange vient et le secoue, le remet en marche. Et qu'est-ce qu'il fait? Un petit peu plus loin, nous le trouvons, versets 9 et 10, nous le trouvons enfermé dans une caverne. Et Dieu va le chercher dans cette caverne. Et il lui dit, mais Élie, que fais-tu ici? Tu t'es relevé du genêt, tu as marché. Et maintenant tu te caches encore. Oui, mais je suis resté moi seul. Vous voyez, il avait des pensées négatives. Il était comme affaibli, il était découragé, il était vulnérable. Il se cachait au lieu d'être ce prophète qu'il a été devant les prophètes de Baal, de continuer sa mission, de continuer ce combat pour la vérité, pour la gloire de Dieu, pour la sainteté. Au lieu de cela, il va aller dans cette caverne et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place. Frères et sœurs, c'est pas notre place de nous recroqueviller, d'être là avec des pensées négatives, avec abattus. C'est pas notre place d'être découragé. On peut avoir un passage, mais le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous relève. Ces pensées négatives, il ne faut pas les accepter. On va voir un petit peu plus loin. Donc Élie était dans une situation où il disait, mais je suis resté moi seul. Et Dieu lui dit non. En quelque sorte, tes pensées ne sont pas bonnes. Tu n'es pas resté seul, mais il y a 700 prophètes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Ils ne les avaient pas vus. Pour lui, il avait une vision qui était rétrécie, une idée négative. « Je suis resté moi seul. » C'est aussi prétentieux. « Je suis resté moi seul. »« Que fais-tu ici ?» Il dit « Allez, sors, sors !» Et nous le voyons un petit peu plus loin, il va continuer sa mission, il va continuer cette mission avec Élisée, etc. Quand des pensées négatives sont là, eh bien, dans notre esprit, dans notre pensée, et souvent, eh bien, nous fuyons ou nous cachons, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes. C'est pas bon. Frères et sœurs, on n'a pas à se recroqueviller. On n'a pas à fuir. On n'a pas à se cacher. Nous sommes enfants de Dieu. Notre Père céleste, c'est Dieu, c'est le maître de l'univers. Nous sommes ses enfants. Et il a tout pouvoir. Et on n'est pas là avec une pensée que le diable nous a, c'est peut-être au travers de quelqu'un, mais le diable nous a infiltré quelque chose. Nous ne devons pas les garder. Ces pensées-là, vous l'avez entendu plusieurs fois, mais les oiseaux de proie, ils peuvent voler au-dessus de notre tête. Mais comme l'a dit un homme de Dieu, il faut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Abraham, dans l'Ancien Testament, quand les oiseaux de proie venaient sur le sacrifice, il les chassait. Et ces pensées négatives, il faut les chasser, parce qu'elles nous paralysent. Notre pensée, Paul dira, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 2, il dira, mais nous avons la pensée de Christ. Vous voyez, la pensée de Christ. Pas des pensées négatives, mais la pensée de Christ. Alors, concernant les pensées, il y a un autre texte que j'aimerais lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, c'est bien quand la parole de Dieu nous parle directement. 2 Corinthiens, chapitre 10. Vous connaissez bien ce texte. Au chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que c'est les pensées qui doivent nous dominer ou nous devons dominer les pensées avec la grâce de Dieu ? Nous devons dominer les pensées. Les pensées ne doivent pas nous dominer, nous mettre à genoux, nous abattre, nous paralyser, nous faire fuir, nous faire cacher. Non, ces pensées-là, non. Nous avons la pensée de Christ. Et c'est cela qui doit conduire nos vies, qui doit nous mener de l'avant. Paul dira aux Romains, dans Romains 8, 37, il dit, mais dans toutes ces choses, dans tous ces combats, ces luttes, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. J'ai l'assurance, j'ai la conviction, je suis certain. Et voyez, au niveau du salut, qui par extension est aussi la communion avec Dieu, le salut, communion avec Dieu, il faut que nous ayons de l'assurance, des certitudes. Il faut que nous soyons convaincus. Et c'est là où le diable essaie de mettre une pensée négative qui va nous... Voilà, mes frères, moi je peux rien faire, je suis... Mais comment Dieu... Quand on voit comment Dieu nous considère, lui, et comment parfois on se considère, nous, on est là, on est... Mais non, mais Dieu nous considère comme ses enfants. Il a donné le meilleur pour nous. Il ne dit pas, mais oui, vous êtes sauvés, mais bah, c'est normal, vous êtes chétif, vous vous laissez faire. Vous êtes... Mais pas du tout. Celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est contre nous. Il faut mener ce combat. Le diable a trop régné, le diable a trop fait des ravages. Il faut lui opposer une résistance et nous le pouvons et nous le devons. Et il faut le faire parce que Dieu nous pousse à le faire. Parce qu'il veut faire des miracles. Mais il n'y en aura pas sans combat. Alors, au ciel, on pourra peut-être poser des questions, je ne sais pas. Mais pourquoi, Seigneur, tu as remporté cette victoire et nous, on doit combattre, tu nous pousses à combattre et ce combat-là, c'est un combat qui dépasse le cadre humain, le cadre de la logique. Ça dépasse, c'est spirituel. Mais il nous dit, combattez et vous aurez la victoire. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, il nous faut de l'assurance, des certitudes, des convictions en ce qui concerne l'amour de Dieu, la grâce, le salut, la communion avec lui, il nous faut des certitudes. Parce que si nous avons des doutes à ce niveau-là, c'est le plus important de tout. Et j'allais dire que ça, de là dépend tout le reste dans notre vie chrétienne. Si le diable met un doute là, par rapport à son amour, la grâce, au salut, à la foi, à la parole de... S'il met le doute là, on ne peut plus rien faire. Il nous a, il nous tient. Mais il faut que là, nous ayons un bon casque. Vous savez, des fois, il y a des casques, ils ont l'air solides et tout, mais quand il y a un accident, ils ne sont pas homologués, etc. Je parle pour les motos. Hein. Mais nous, le casque du salut, il est solide. Il est bon, il est costaud. Alors, concernant l'assurance, Jésus dira à ses disciples qui étaient dans le doute... Il leur dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Il leur dit dans Jean 14, 27, il leur dit, mais je vous laisse ma paix, je vous donne je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que ça nous arrive d'être troublés? Oui. Il ne faut pas que ça dure. Le trouble, il peut venir. Les oiseaux de proie, ils peuvent venir comme ça, ils peuvent voler au-dessus de notre tête, on les voit, on les chasse, mais il ne faut pas qu'ils viennent, il ne faut pas que ce doute, il enfante, il reste là, on le garde dans notre cœur, une pensée mauvaise, des choses qui sont là dans notre cœur. Non, non, pas du tout. Il faut que ces choses soient chassées au nom de Jésus. Ces pensées mauvaises qui amènent le doute, qui incline notre vision des choses, notre regard, tout est faussé. Quand il y a une mauvaise pensée, tout est faussé. Penser sur Dieu, sur les frères et sœurs, il y a des choses qui sont là. Non, il ne faut pas, le diable veut toucher là. Mais nous, il nous faut un bon casque, le casque du salut, pour que quand la hache ou l'épée frappe, elle ne puisse pas toucher notre tête. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer ces pensées qui viennent de l'ennemi, ces doutes, il faut les remplacer par des choses qui viennent du Seigneur. Et Philippiens 4, 8, connaissez bien ces textes, nous dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. J'allais dire, quand je lis ce texte, je dis, finalement, c'est tout ce qui vient de Dieu doit être l'objet de nos pensées. Si on est rempli de la pensée du Seigneur, si on est rempli de la parole de Dieu, si on est rempli de l'Esprit, mais les mauvaises pensées, c'est une protection, ça. Vous savez, c'est un bon exercice aussi de réciter la parole de Dieu, bon, haute voix ou dans notre cœur. Voilà, je la récite en moi, sans la Bible, bien sûr, hein. Réciter des versets dans mon cœur, des repasser, des promesses, tout cela, ça va affermir, parce que la foi vient de la parole de Dieu, ça va affermir notre cœur, et ça va garder aussi nos pensées. Mais si on laisse des choses mauvaises, bon, dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, si on laisse rentrer plein de choses qui ne sont pas bonnes, le résultat, ça va être qu'on va être rempli de ces choses. Vous savez, parfois, on a peur de quelque chose, on craint quelque chose, et finalement, on s'est peut-être inquiété pendant des jours et des semaines, et ce n'est pas arrivé. Ça vous est jamais arrivé, ça? On craint, mais... Laissons la paix du Seigneur envahir nos âmes. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, si vous notez, à partir du chapitre 6 et verset 6, il est dit, « Ces commandements seront dans ton cœur, je n'ai pas tout noté, mais vous le lirez, seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras à la maison, en voyage, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras. » Au verset 8, il est dit que « Tu les liras comme un signe sur tes mains. » L'activité conduite par la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Ils seront aussi comme un fronteau entre tes yeux, la tête, la pensée. Vous savez, c'est sûr que ça serait bien avec un support, des images, mais il y avait une petite boîte qui était là, avec attachée, il y avait sur les mains, il y avait sur la parole de Dieu. Dans cette boîte, les Juifs mettaient ces choses, et c'était un symbole que les pensées doivent être dirigées par la parole de Dieu. Entre tes yeux, ça veut dire dans nos pensées, dirigées par nos mains, l'activité, le service dirigé par la parole de Dieu. Alors l'assurance du salut, c'est le socle de toute notre vie chrétienne. De là découle tout le reste. Cette assurance ne repose pas, et là c'est important ça, parce que Des fois, on dit, ouais, je ne ressens pas, je ne suis pas, je suis pas bien. Je... Mais notre salut, la foi, la vie chrétienne, hein, ne repose pas sur ce que nous ressentons ou pas, ou sur ce que nous faisons ou pas. Il faut que, une bonne fois pour toutes, ce soit débarrassé de notre esprit. Ce que je fais ou je ne fais pas, ce que je pense ou je sens, je ressens, je ne sens pas, ça, ce n'est pas du tout biblique. Pas du tout. Notre salut, il repose sur uniquement l'œuvre de Jésus à la croix. Et ça, il faut s'en souvenir. Et notre assurance, elle repose sur ce que Dieu a déclaré par rapport à ce que Jésus a accompli. Il est dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. On peut se triturer, être là, oui, mais Seigneur, mais je ne fais pas ce qu'il faut. Non, pour le salut, il n'y a rien à faire de notre part, si ce n'est bien sûr à se repentir quand on se convertit, à donner notre vie, à désirer marcher avec le Seigneur, et à accepter le sacrifice de Jésus à la croix, son sang qui a été versé. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Après, dans la vie chrétienne, il y a des choses à accomplir que le Seigneur nous demande dans sa parole. Mais vis-à-vis du salut, le casque du salut, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et ça, on n'a rien à ajouter, rien à retrancher. C'est Christ qui a tout accompli. Et il faut, une fois pour toutes, que dans notre esprit, ça se soit jamais remis en cause. Que l'ennemi, que n'importe qui puisse venir. Non, il nous faut cette assurance-là. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Christ. C'est lui qui a tout accompli. C'est ce que Dieu dit que nous croyons. Et de ce que Dieu dit, nous... Il nous donnera des certitudes, des assurances et des convictions. C'est la parole de Dieu qui nous les donnera. Alors que je dis, ouais, mais je ne sais pas en ce moment, il y en a qui craignent par rapport au salut, par rapport... Mais si le diable met le doute là, on est paralysé complètement. On est paralysé complètement, on ne peut pas combattre. Mais il nous faut cette assurance, elle vient de Dieu. Cette assurance, c'est lui qui a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. En nous appuyant sur la parole, nous avons de la force. Nous avons comme une autorité quand nous nous appuyons sur Christ. Le diable peut venir. Vous savez, ce salut, j'avais oublié il m'a traversé l'esprit, mais ce salut, il est tellement grand. Dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est au chapitre 1er, dans la première épître de Pierre, je crois. Enfin, on recherchera. Mais il nous est dit que les anges désiraient plonger leur regard sur le salut. C'est tellement grandiose, c'est tellement inimaginable le salut, que les anges, qui eux n'ont pas eu besoin de se repentir, mais ils plongent leur regard et ils essaient, il y a des investigations, il nous est dit, plongeant leur regard dans le salut. Mais c'est extraordinaire. Le salut, c'est ce de plus grand que nous possédons. Nous pouvons perdre beaucoup de choses ici-bas. Nous pouvons perdre beaucoup de choses. Mais que jamais nous ne perdions le salut. Que jamais. Oh, nous pouvons perdre des amis, nous pouvons perdre des membres de nos familles, nous pouvons perdre la santé, nous pouvons perdre des biens matériels, nous pouvons perdre de la notoriété, etc. Nous pouvons perdre beaucoup de choses. Mais que le salut soit toujours dans notre cœur une conviction profonde, que nous puissions un jour voir le Seigneur. Et si nous traversons des moments de doute, ça arrive, je l'ai dit, mais il ne faut pas que ça reste le doute. Si nous traversons des moments de doute, voici quelques déclarations de la parole de Dieu que nous voulons repasser sur notre cœur et dans notre esprit. Jérémie disait, voilà, il y a devant moi, il y a l'absinthe et le poison. Voilà, et je suis abattu. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà, c'est un choix, nous pouvons repasser dans notre cœur toujours les choses négatives. Et c'est de l'absinthe et du poison. Mais il dit non, moi je ne veux pas repasser cela. Moi je veux repasser ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors quelques versets qui vont nous encourager et peut-être que si quelqu'un traversait le doute, voilà, 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. 2 Corinthiens 12, 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Timothée 1,12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il, Dieu, qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Et enfin, il y en aurait des dizaines et des dizaines, mais Hébreux 13, 5, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. En conclusion, comme je le disais, la vie chrétienne, si elle est vraiment vécue, elle est difficile. La vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est de la joie, mais c'est aussi des pleurs. La vie chrétienne, c'est la paix de Dieu, mais c'est aussi un combat intense. La vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Nous pouvons perdre, oui, des choses, ici-bas, mais Dieu nous assure qu'il vienne nous chercher et que nous serons avec lui pour l'éternité. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas cette vie ici-bas. Oui, il faut pas axer tout sur, voilà, je veux être heureux, je veux être en paix, je veux être, enfin, en paix, oui, mais je veux être, voilà, voir ce qui... Non, c'est on a ce que Dieu nous donne. Dieu est notre... Mais nous sommes pas tous appelés à... Voilà, il y en a, ils sont appelés à des vies difficiles, hein. C'est pas tous, mais dans cette vie difficile, j'allais dire de combat, de lutte, il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il y a la joie de Dieu qui nous transporte dans les moments difficiles. Il y a quelque chose de surnaturel. Le salut de Dieu, il est bien plus grand que les contingences d'ici-bas. Le salut de Dieu, il dépasse tout. Les démons pourraient nous être soumis. Ce qui est plus important, c'est que nous soyons un jour dans le ciel avec le Seigneur. Et que nous régnions avec lui. Mais c'est ça le plus important. Et il faut que ce salut, il devienne, vous voyez, il est en haut le salut, hein, le casque. Voilà, tout le reste est commandé par notre salut, notre communion avec le Seigneur. Ça, c'est plus important que tout. Dans les moments difficiles, il faut pouvoir dire comme Paul, c'est vrai que tout passe ici-bas. Si notre être extérieur il se détruit, c'est vrai, notre être intérieur il se renouvelle chaque jour. Le Seigneur revient bientôt. Revêtons le casque du salut. Ne soyons pas comme le monde insouciant, le monde s'inquiète pour l'avenir, il y a tellement de choses, oui, et nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça, c'est le monde. Nous avons comme Dieu notre Père, Jésus. Et lui, il a nos vies dans sa main. Laissons-le faire, faisons-lui confiance. Il a un avenir et de l'espérance pour nous. En tous les cas, l'avenir et l'espérance, c'est le ciel. Ça, c'est sûr et c'est certain. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci de nous aider à dépendre de toi, à être enseignés par toi, à avoir la pensée de Christ, à nous laisser envahir de ta parole, Seigneur, à la méditer, à la serrer, à la repasser dans notre cœur. Ça nous donne de l'espérance. Seigneur, quand nous plongeons nos regards dans ta parole, ça nous donne une grande joie, des convictions. Ça nous amène à nous humilier nous-mêmes. Oui, ça dépend pas de nous. Oui, on n'y est pour rien dans le salut. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi et te demander encore ta grâce et ton secours. Bénis les frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Seigneur, que la parole puisse les éclairer, les encourager, les fortifier, et qu'ils soient forts même pour combattre. Alors qu'ils ont des difficultés, ils peuvent combattre par la foi. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour le secours de ton esprit. Merci pour la grâce et merci pour que tout ce que tu as accompli à la croix du calvaire, à ton nom soit toute la gloire. Amen.